Vous écoutez Oleti, épisode numéro 53. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Ingrid Ulrich, une exploratrice en stand-up paddle. Bienvenue sur Oleti, le podcast 100% glisse, océan et motivation. Je suis Sarah Hébert, ancienne championne de windsurf, pionnière du sup yoga en France. Après 5 années à sillonner les mers du globe, en voilier avec ma famille, j'achève ce fantastique voyage qui me ramène à mon caillou natal, la Nouvelle-Calédonie. J'ai créé Oleti pour te partager ma philosophie de vie, ma capacité à croire en mes rêves, même les plus fous, et ce besoin insondable d'être connecté à l'océan. En solo ou à deux, je partage le micro avec des femmes et des hommes inspirants qui vivent leurs rêves bleus contre vents et marées. Alors si comme moi, tu crois qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je partageais le micro avec Antoine Auriol, ce champion de kitesurf reconverti en reporter-navigateur. J'ai adoré notre échange et apparemment, ceux qui ont déjà écouté le podcast l'ont aussi aimé. Donc, je vous invite à l'écouter. C'est un podcast très développant personnel. Et je pense que celui qui va suivre aujourd'hui va être sur la même lignée. Donc, cette semaine, je suis un peu plus heureuse d'accueillir une aventurière des mers comme moi, mais celle-ci semble être moins frileuse puisqu'elle a choisi comme terrain d'exploration le Groenland. Cette conquérante des mers glacées n'est autre qu'Ingrid Ulrich. Je la connaissais par son parcours sportif et en préparant cette interview, ce que j'ai découvert, c'est qu'elle a une histoire personnelle très inspirante. Et je suis sûre qu'on partage le même dicton, avec du cœur, tout est possible. Ingrid a su relever avec brio les défis que la vie lui a envoyés. Entre relations amoureuses toxiques et cancer du sein, Ingrid a su garder l'équilibre pour trouver son chemin et faire rayonner la paix dans son cœur. Aujourd'hui, elle accompagne ceux qui le souhaitent dans l'aventure du Grand Nord en stand-up paddle. Ingrid, je te souhaite la bienvenue sur Oleti. J'ai hâte que l'on parle de ce destin qui t'a poussée à la résilience.
Bonjour. Alors, on est souvent coupés, hein, mais j'essaye de suivre en même temps sur Insta et sur le podcast, mais ça coupe pas mal de fois.
Bien. T'habites dans un petit village en France ou...
C'est un petit peu paumé, mais bon, normalement, il y a quand même du réseau.
Ok. Alors, avant de plonger dans les détails de ta vie salée, je profite du micro pour informer nos auditeurs que je propose une série de fiches techniques pour apprendre les bases du stand-up paddle, mais également quelques astuces pour se mettre au stand-up paddle yoga. Alors, si ça vous tente, rendez-vous dans le descriptif de cet épisode pour télécharger ces fiches. Vous serez automatiquement rajouté à ma liste d'abonnés à ma newsletter et serez informé des dates de mes prochaines retraites sup yoga. D'ailleurs, la prochaine a lieu dans la vallée de la Tchamba, en Nouvelle-Calédonie. 4 jours d'immersion en tribu, en pleine campagne tropicale pour ralentir, se connecter à sa nature. Tiens, je suis curieuse, Ingrid, le sup yoga, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou que tu pratiques déjà, peut-être ?
Alors, j'ai déjà tenté l'expérience, mais je pense que je manque encore de patience. J'ai trop envie de prendre ma pagaie et d'aller voir plus loin ce qui se passe. Mais peut-être que si je faisais une séance avec toi, ce serait peut-être différent.
Je crois avoir vu que tu t'associes parfois à des professeurs de yoga pour proposer des séjours.
Oui, tout à fait. En fait, je propose souvent des journées à thème paddle plus une activité qui s'y rapproche. Donc, ça peut être du paddle yoga pour justement montrer l'importance du paddle et les bienfaits du paddle sur la santé.
Donc, le yoga ne t'est pas étranger?
Non, pas du tout.
Ok, alors on va faire un retour en arrière pour commencer cette entrevue. Parle-moi de tes premiers souvenirs en lien avec l'océan.
Alors là, ça vient de couper. Donc j'ai entendu parle-moi de...
Donc parle-moi de tes premiers souvenirs en lien avec l'océan.
Alors, à la base, je suis quand même monitrice de planche à voile. Voilà, mes tout débuts, j'ai passé un monitorat parce que tout simplement, j'adorais la mer. Voilà, donc mes débuts, c'était à la voile.
Bien. Et c'était où ?
Alors, et pourtant, je n'ai jamais habité au bord de la mer ou de l'océan, puisque je suis ardennaise. Donc, voilà, c'était un rêve de petite fille d'un jour habiter près de la mer, chose que j'ai faite par la suite. Je suis partie vivre aux Antilles pas mal quelques années, et ensuite, je suis rentrée en métropole et je me suis installée près de Montpellier.
Bien. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce premier contact avec la mer, l'océan? Qu'est-ce que tu ressentais? Quelle impression ça te donnait?
Alors, mes premiers pas en voile sur la mer, c'était l'île d'Oléron, en face de Fort Boyard. Et bah, pour moi, c'était la liberté et l'évasion. Et justement, déjà dans ma tête de petite fille, c'était partir à l'aventure.
La graine a été plantée à ce moment-là. Je pense. Et en plus, en étant sur une île, c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin, toujours.
Eh oui. Bah après, je suis partie sur l'île de Saint-Martin, aux Antilles. Donc, voilà, c'était mon rêve de petite fille, partir vivre sur une île. Donc, voilà, j'ai fait.
D'accord, tu as vécu aussi à Saint-Martin.
Ouais, tout à fait. Ouais, pendant 5 ans.
Alors, aujourd'hui, on te connaît parce que tu as fait donc une expédition dans le Grand Nord en paddle. On en reparlera. Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as un passif de sportif de haut niveau ou est-ce que tu as fait des compétitions en paddle? Est-ce que tu as un métier en lien avec le sport et l'océan?
Alors, donc j'ai fait mes débuts en tant que monitrice de planche à voile, mais c'était des petits boulots d'été. Dans la vraie vie, je suis prof de commerce et de vente en lycée professionnel. Et ensuite, avant de partir dans le Grand Nord, en fait, bah, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, hein, j'ai une histoire qui m'a amenée justement à me reconnecter à la mer, à un sport de pagaie, etc. J'ai vécu les violences conjugales. Donc, suite à ça, voilà, un jour, j'ai vu des gens passer en stand-up paddle. Moi, à l'époque, je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais le droit de voir personne, etc. Et j'ai vu des gens passer sur ces planches-là, debout, et ils souriaient, ils s'éclataient entre eux, ils rigolaient. Et donc, je me suis dit, le jour où j'arrive à sortir de cette situation, je ferai du stand-up paddle. Voilà, donc les débuts ont commencé comme ça, quand j'ai réussi à partir de cette relation. Ben, je me suis mise au stand-up paddle, puis après je me suis pas arrêtée de ramer, j'ai commencé les compétitions, etc. Enfin, tout le monde me disait tu rames bien et tu rames dans ta vie, parce que bon, quand on se sépare des violences conjugales, c'est toujours très long, très compliqué. Donc la petite boutade, c'était ben, tu rames bien dans ta vie, tu rames avec le tribunal, la justice, etc. Donc tu devrais ramer pour de vrai. Donc c'est là où j'ai commencé les compétitions, à faire des podiums, etc. Et après, ben, l'envie d'aventure et justement de reprendre confiance en moi et de montrer aussi aux femmes qu'après tout ça, on pouvait faire des choses seules et les faire bien. Voilà, d'où l'idée des premières aventures en paddle, des premières expéditions, etc. Bon, qui n'étaient pas dans le Grand Nord, mais qui étaient déjà fort sympathiques.
C'est impressionnant, du coup, le rôle pour toi qu'a eu le stand-up paddle. Enfin, il a été multi-pouvoir, ce stand-up paddle-là. Tu parlais de la liberté que tu as éprouvée les premières fois que tu es allé sur l'eau. Quand tu as vu le paddle, c'était la liberté. Et là, c'est pour toi, c'est une liberté avec un méga, méga L, quoi.
Ah bah, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est surtout faire des choses moi-même et puis d'avancer à la force de mes bras. Enfin, voilà, parce que pendant des années, quand quelqu'un vous ravage, bah, que vous êtes nul, que vous servez à rien, que vous savez rien faire, bon, ben bah, là, j'étais debout. Le menton levé, comme on dit, même le poing levé avec cette pagaie dans la main, et je pouvais aller où je voulais, quoi. Enfin, c'était vraiment la liberté totale. Et ensuite, après, faire des choses bien et me retrouver sur des podiums, etc., etc. Enfin, voilà, après, c'est parti dans tous les sens, et c'est ce qui m'a permis de retrouver vraiment confiance en moi.
Je comprends un petit peu mieux, parce que c'est vrai qu'en lisant des articles sur tes exploits en paddle, je me suis dit qu'il fallait quand même une sacrée dose de pugnacité pour réussir à ramer pendant des heures dans un environnement aussi inhospitalier que le Groenland. Et je me suis demandé d'où te venait cette force. Là, je commence à comprendre. Je l'ai compris aussi en lisant ton histoire, hein, parce que quand voilà, on voit que tu as fait bien plus dur en te libérant des griffes du compagnon et toxique de l'époque et en vainquant le cancer. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'imagine que c'est quelque chose que tu racontes en détail dans ton livre, Une vie presque ordinaire ou l'art de se relever. Finalement, c'est là où on voit que la colère, l'injustice, la tristesse peuvent être des moteurs, en fait, redirigés dans la bonne direction. Comment tu l'as vécu? Comment t'expliques tout ça?
Ben, c'est ça, en fait. C'est faire de quelque chose de négatif ben, du positif dans sa vie. Et puis, de toute façon, je n'avais pas le choix. Il fallait que je rebondisse. J'ai 2 enfants de cette union. Donc, voilà, je ne pouvais pas baisser les bras. J'étais la seule personne sur qui mes 2 filles pouvaient compter aussi. Puis, j'avais envie de leur montrer que... Voilà, il s'était passé plein de choses, mais que j'étais pas si nulle que ça et que maintenant, elles allaient avoir une super maman. Donc, j'avais aussi des choses à leur prouver à elles, des choses à leur prouver à moi. Voilà, il y avait plein de choses. Et puis après, effectivement, il y a eu l'épisode aussi cancer qui s'est additionné à tout ça. Encore une autre aventure et un autre combat, mais toujours la pagaie à la main.
Qui est peut-être en lien d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui, bah souvent on me le dit et puis on ne saura jamais vraiment, mais c'est vrai que bien souvent, ça va un petit peu avec ce qui s'est passé avant.
Carrément. C'est important pour toi, du coup, tu ne le caches pas. Il y a des gens qui n'auraient pas forcément voulu communiquer sur cette partie de sa vie qui peut être traumatique. Ça a duré longtemps, ta relation avec ton conjoint ?
Alors, c'est le père de mes enfants, hein, donc ça a duré plus d'une dizaine d'années quand même. Et en fait, je me disais tout le temps, j'attends qu'elle soit grande, qu'elle ait 18 ans pour partir, etc. Et puis bon, j'ai pas réussi. Je suis partie avant parce que ça commençait à être vraiment trop dangereux pour moi, pour elle. Donc voilà.
Et oui, donc je disais, toi tu en parles parce que t'as envie de partager le message. Quelle est ta principale motivation le fait de parler de cet épisode de ta vie ?
En fait, d'en parler, pendant des années, je m'en suis cachée. J'avais quand même le droit juste d'aller travailler et puis ça était arrivé au point où il m'interdisait d'aller travailler, donc forcément au bout d'un moment c'est là où j'ai vraiment aussi décidé de partir parce que j'étais enfermée et moi je veux en parler justement pour montrer aux femmes qu'on peut se sortir de tout ça. Et puis j'étais quand même consciente de la situation, je savais ce qui se passait, je savais que j'étais dans une situation pas terrible, voire complètement catastrophique, mais je trouvais pas l'issue. Et en fait, l'issue c'était tout simplement partir, même si tout est compliqué aussi par la suite, avec les enfants, financièrement, enfin tout, après tout est compliqué, mais c'est pour ça que je veux en parler, parce que c'est pas la défaite, quoi. Enfin voilà, on peut s'en sortir et puis donc il faut en parler pour justement que les femmes qui se sentent coincées dans cette situation là se disent mais elle a bien réussi, moi aussi, parce qu'en fait je suis comme tout le monde.
Et justement ça tu fais une belle transition pour la question que je voulais te poser après. Lorsqu'on sait qu'on est dans une situation qui nous convient plus, qui n'est plus alignée avec ce que l'on fait, mais qu'on sent bloqué dans cette zone de confort qui est pourtant un peu très confortable, comment on fait pour s'en sortir ? Et comment on rebondit après ça ? Tu dis que c'est difficile. C'est cette fameuse capacité de résilience dont on parle souvent. Et pourtant, on la trouve pas tous. Alors, c'est quoi le secret ?
Je ne sais pas, parce que moi j'ai réussi. Je ne sais pas s'il y a un secret. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des caractères. Je ne sais pas, moi, comme je dis, je n'avais pas le choix. En fait, je suis restée après la séparation. J'avais peur parce qu'il rôdait toujours, il me menaçait. Donc, je suis restée des fois des semaines complètes enfermée chez moi, volet fermé, dans le noir. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est plus possible, quoi. Et justement, à ce moment-là, je me suis dit, mais... J'ai un diplôme de monitrice de voile. J'ai vu ces gens-là, il y a quelques années, faire du paddle. J'avais dit que le jour où je me séparais, où j'arrivais à partir, je ferais du paddle. Et puis du coup, je me suis mis des gros coups de pied aux fesses. Et je pense aussi que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Enfin, je les ai rencontrées parce que j'y suis allée pour les rencontrer. Je suis allée voir un directeur d'une école de voile. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ça fait 10 ans que je suis avec une personne, 10 ans que je n'ai pas fait de sport, 10 ans que je ne suis pas sortie, 10 ans que je n'ai pas enseigné la voile. Mais je veux reprendre, il faut me donner ma chance. Et cette personne-là m'a ouvert la porte et m'a dit, mais bien sûr. Voilà, et ça a commencé de là. Et après, il m'a dit, mais en plus, il y a peut-être un enseignement en paddle à faire. Et il me dit, tu as 3 mois pour être prête. Donc en 3 mois, j'ai fait des leçons de paddle, etc., des entraînements pour pouvoir faire juste de l'initiation au niveau que j'avais à l'époque. Donc je suis tombée aussi sur les bonnes personnes.
Ouais, c'est top. En fait, finalement, le secret, s'il y en a un, c'est juste de se mettre à l'action, pas après pas, petite action après petite action. Et le premier pas, c'est sortir de sa zone, partir, changer. Et c'est marrant, je partageais une citation il y a quelques jours. Si une situation ne te convient pas, bouge, change, t'es pas un arbre. Un truc comme ça, ça m'avait fait rire. Pas après pas, en effet, t'es parti, après tu restes enfermé chez toi, puis finalement t'es sorti de chez toi, et marche après marche, aussi difficile qu'elles peuvent être, on finit par atteindre un meilleur équilibre. Tu dis c'est difficile, Pour autant, j'imagine qu'aujourd'hui, pas une seconde tu regrettes, pas une seconde tu aimerais changer ta situation.
Ah non, même si elle reste toujours compliquée actuellement, hein, parce que les tribunaux, ça, c'est pas fini, et ça fait 10 ans quand même. Mais non, je regrette rien du tout. J'ai retrouvé une vie normale et où j'y suis bien et heureuse. Donc non, je regrette pas du tout.
Est-ce qu'à l'époque, tu aurais pu imaginer la Ingrid d'aujourd'hui qui part en Groenland avec son paddle, qui fait des expéditions, qui emmène des touristes voyager?
Alors, j'ai envie de te dire non, forcément, mais d'un autre côté, oui, parce que quand j'étais jeune, c'est tout à fait le genre de choses que je voulais faire. Mais à l'époque, j'étais freinée parce que mes parents me disaient « c'est pas un métier, c'est pas un truc pour les filles ». Déjà, monitrice de voile, ils acceptaient que je le fasse l'été, mais je ne pouvais pas le faire à l'année parce que ce n'était pas un bon métier. Enfin, voilà, donc j'ai envie de te dire oui, parce que mon caractère, avant que je rencontre cette personne et que je ne sois plus moi, était déjà comme ça. Mais je ne l'avais pas encore fait parce que je n'avais pas eu le temps de me réaliser. Parce que bon, à l'époque, j'avais 26 ans, j'étais toute jeune. Voilà, puis après, il y a eu les enfants, etc. Mais en fait, ouais, c'est moi ça.
Ouais, c'est fou qu'on arrive à se perdre des fois dans des relations, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, je crois, les relations humaines.
Ouais, se perdre dans des relations, se perdre dans un travail, il faut de l'argent pour payer des factures, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça, et voilà, et moi c'est vrai que j'ai eu cette histoire qui m'a remuée, et puis après il y a eu le cancer, donc voilà, j'ai envie de faire... les rêves que j'avais quand j'étais gamine, et puis je suis en train de les réaliser petit à petit, un par un, parce que voilà, la vie est courte, et puis ça n'arrive pas qu'aux autres, ce genre d'emmerde, donc il faut y aller.
C'est sûr, oui, du coup, j'ai envie de te poser deux questions. La première, c'est donc aujourd'hui, tu as lâché ton ancien emploi, tu n'es plus que monitrice de voile, organisatrice de retraites, etc., enfin de déplacements.
Non, pas du tout, je suis toujours enseignante, et tout ce que je fais, toutes mes expéditions, ou même quand j'emmène des gens en voyage ou à l'aventure, c'est sur mes temps de vacances scolaires. Okay. Voilà. Et après, avec la maladie, c'est vrai que j'ai été en arrêt quand même pas mal de temps. Et entre chaque traitement, j'arrivais à faire quand même des aventures pour me changer les idées. Donc voilà. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que c'est juste sur les vacances, ça limite quand même.
Ouais. Du coup, ça a duré combien de temps? C'était un cancer du sein, c'est ça?
Cancer du sein, et je suis restée en arrêt pendant quasiment 5 ans. Pour faire tous les traitements.
Avec différentes rechutes, comment ça s'est passé ?
Non, mais c'était juste long, parce que chimio, radiothérapie, hormonothérapie, ablation d'un sein, d'un deuxième sein, après on se rend compte que c'est génétique, donc il faut retirer aussi le bas, enfin voilà, ça fait beaucoup d'opérations, beaucoup d'anesthésie générale. On m'a retiré les trompes et les ovaires aussi, parce que comme c'est génétique, ça peut se propager en bas. Donc toutes les petites choses, tous les désagréments qui vont avec tout ça, passer en ménopause par exemple du jour au lendemain, toutes ces petites choses-là, après qu'il faut gérer, et voilà, donc ça faisait beaucoup de choses.
Ça s'est déclaré combien de temps après ta séparation, et comment t'as accueilli la nouvelle du cancer ?
Alors, combien de temps après, quelques années après, je ne sais pas exactement, peut-être 4 ans.
T'as eu le temps un petit peu de te relever quand même.
Ouais, j'avais déjà commencé à faire du paddle, à faire des compètes, à faire des expéditions, à faire des podiums. Et je sais pas, j'allais pas bien. En fait, j'étais toujours blasée, nostalgique, j'étais jamais contente de moi. Et quand je disais ça aux gens, les gens me disaient « Ouais, mais c'est normal, tu viens de ramer là en 9 jours 600 km, tu viens de faire telle compète, etc. » Je disais « Mais non, il y a autre chose, je ne suis pas que fatiguée de ça, quoi. » Et puis, un jour, justement, j'allais faire cette fois-ci une sortie en ski de rando. Je devais retrouver des copains, c'était une sorte de course. Je devais retrouver des copains au chalet d'altitude, voilà, c'était le premier arrivé en haut. J'ai fait 25 mètres et bah, j'ai fait demi-tour. J'ai dit, mais à quoi ça sert de faire tout ça? À quoi ça sert? Ben, puis même dans ma tête, je me suis même dit, à quoi ça sert de ramer? À quoi ça sert de faire du ski? Enfin, voilà.
Ah ouais, ça t'a donné un état un peu dépressif.
Ouais, okay. Et puis, bah, je suis retournée à un autre endroit. Je me suis assise au bar. J'ai réfléchi à tout ça devant quelques verres. Et je me suis dit, j'ai un truc qui ne va pas en moi, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ben, 3 jours après, j'étais chez le médecin. Parce que 3 jours après, j'ai senti une boule dans mon sein. Et ben, de là, on m'a annoncé, après ça allait très vite, hein, et donc on m'a annoncé le cancer. Voilà, que j'avais déjà depuis 2 ans. Donc j'avais une belle tumeur.
Et là, du coup, comment tu as réagi?
Alors, j'avais déjà prévu, j'étais en préparation, ça c'était en fin février, fin février, début mars. J'étais en préparation pour ma première expédition au Groenland que je devais faire pendant le mois de juillet.
Ah
donc,
oui.
Tout était prêt, ah les sponsors,
ah ouais.
Les billets d'avion, tout était prêt. Ah et le médecin m'annonce ça. Et en fait, moi, j'avais qu'une idée en tête pendant les rendez-vous avec l'oncologue. Je lui disais, oui, mais est-ce que je peux partir ramer au Groenland? Mais est-ce que je peux partir? Et lui, il me disait, mais vous n'avez pas d'autres questions, en fait? Quand est-ce que vous allez perdre vos cheveux? Si vous allez avoir
c'est
mal?
Clair. Moi, j'en est-ce que je vais mourir?
Et moi, j'en avais rien à faire, quoi. Ce que je voulais, c'était aller au Groenland. Donc, ça a un peu énervé mes parents. Donc, après, au prochain rendez-vous, ma mère venait avec moi parce qu'elle m'a dit, tu ne poses pas du tout les bonnes questions, donc il faut que je vienne avec toi. Et voilà. Donc, en fait, là, le médecin m'a dit, eh ben non, vous ne partirez pas. Et de toute façon, le paddle, vous n'en ferez plus jamais de votre vie. Donc, deuxième coup de massue.
Sympa pour médecin.
Ouais. Donc, voilà, ça, c'était le deuxième effet qui se coule, quoi, après le premier. Et en fait, j'en reviens à ta question quand même. Quand on m'a annoncé ça, au début, j'avais refusé justement de me soigner parce que je voulais partir au Groenland. Voilà. Donc, j'avais dit, je ne me soigne pas. Et ce jour-là, j'ai dit au médecin, combien de temps il me reste à vivre? 6 mois, 1 an. Et de là, il s'est dit, non, mais là, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Donc, il a pris son téléphone. Il m'a dit, vous venez tout de suite, on va boire un verre. Alors, quand un médecin propose de boire un verre, là, on se dit, il y a un truc pas normal. Ça ne rentre pas là dans les protocoles. Donc voilà, et là, il m'a secoué. Il m'a dit, mais vous avez 2 filles, elles sont toutes seules, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Maintenant, vous allez vous soigner. Et puis, le Groenland, on reverra plus tard. Mais il me disait quand même que je pourrais plus ramer. Donc, c'était un peu, voilà. Donc du coup, j'ai fini par accepter de me soigner et de repousser l'expédition.
Surtout que je ne vois pas le lien avec le fait de plus avoir de sein, plus avoir d'ovaire et de pas pouvoir faire du paddle. Enfin, je sais.
En fait, c'est tout en relation. En fait, quand on retire une tumeur, donc moi en l'occurrence c'était le sein droit, on retire toute la chaîne ganglionnaire du bras. Donc en fait, après, par exemple, tu vois, à ce côté-là, je porte pas de bague, je porte pas de montre, je porte pas de bracelet parce que la moindre chose qui serre un petit peu peut me créer un œdème. J'ai plus le droit, en théorie, hein, à l'époque, j'avais plus le droit de porter de pack d'eau, j'avais plus le droit de porter un sac de ce côté-là. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas le droit de faire. Donc, forcément, faire du paddle, c'était trop pour ce bras-là et je risquais un œdème, ce qu'on appelle le gros bras. Voilà. Sauf que maintenant, on a évolué depuis 5 ans. Ça y est, on a évolué et maintenant, on sait que ramer, ça fait du bien. Tout comme faire une activité physique avec ce bras-là, ça fait du bien. On a créé maintenant les Dragon Boats. Enfin, maintenant, on développe les Dragon Boats pour les femmes qui ont eu un cancer du sein, donc pour la rééducation. Donc maintenant, on les envoie ramer, on les envoie faire du sport avec le bras où la chaîne ganglionnaire a été retirée. Alors qu'il y a encore 5 ans, on disait qu'il ne fallait pas.
Donc, encore une fois, le paddle a été là pour t'aider dans ta rééducation, te permettre de te relever de ça. Incroyable.
Tout à fait. Et puis après, de toute façon, sur cette histoire de gros bras et d'œdème, il n'y a aucun recul au niveau, encore là, actuellement, de la médecine. On ne sait pas comment ça arrive. Peut-être que dans 10 ans, je l'aurai. Hein. Peut-être que l'année prochaine, je l'aurai. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi certaines femmes l'ont, certaines ne l'ont pas. Et pourquoi ça se déclare des fois aussitôt, des fois 10 ans après, on ne sait pas. Donc, en attendant, autant en profiter et puis faire ce qu'on veut. Et puis, on verra bien au moment où ça arrive, quoi.
Bon, alors du coup, on va pouvoir parler de cette fameuse expédition en stand-up paddle au Groenland parce que tu l'as fait. C'était l'exploration de la baie de Baffin, comment on dit?
Ouais, la baie de Baffin, enfin la baie de Disco, ouais. C'est du côté de la baie de Baffin, ouais, tout à fait. Donc c'est sur la côte ouest du Groenland.
J'ai vu donc que c'est à 250 km du nord du cercle polaire.
à 350 km au nord, okay. à peu près, du cercle polaire. Voilà. Okay.
Et alors, ça s'est passé quand? C'était comment? Quelles ont été tes difficultés, tes instants de bonheur? Et puis j'imagine, alors du coup, c'est quand est-ce que tu as pu finalement partir?
Ouais, alors du coup, je suis partie l'été suivant. Donc, j'avais fini chimio et radiothérapie. Voilà, je suis repartie à l'époque, j'avais les cheveux tout courts, tout bouclés. Voilà. Et donc, je l'ai fait l'été suivant. Donc, je suis partie pendant... ça a duré un mois. Et en autonomie sur l'eau, je suis partie 21 jours. Donc, j'ai fait à peu près 450 km à travers les glaces, le long de la côte. Au milieu des icebergs, des décors de dingue, et tous les soirs je plantais ma tente sur la berge et je repartais le lendemain, voilà, et c'était vraiment top.
Ouais, j'imagine, est-ce que t'as ressenti un certain soulagement, une certaine fierté quand t'es arrivée là-bas, après tout ce qui s'était arrivé?
Alors, fierté, non, mais par contre, de la joie, parce que j'y étais arrivée, j'y étais, c'était magnifique, c'était beau, j'étais là, enfin, j'avais réussi à y être, parce qu'entre-temps, j'avais essayé de trouver des renseignements sur le Groenland, le fait de faire du paddle là-bas, alors tout le monde me disait, t'es folle, ça se peut pas, c'est dangereux. En plus, c'est une fille, hein, tu n'y arriveras pas. Enfin, ça, je l'ai entendu. Et personne part avec toi, il te faut au moins un homme, etc. Enfin, ça, pareil. Donc, j'étais contente d'arriver là-bas et puis de faire ce que j'avais envie de faire. Et en fait, là-bas, je me sens bien. Voilà. Et puis, c'est cette liberté sans limite quand on part en expédition dans un endroit pareil, parce qu'il y a très peu d'êtres humains. Donc, j'avais mes cheveux tout courts. C'était difficile aussi, pas d'accepter parce qu'on est obligé de l'accepter. Mais y a des jours, je me voyais dans la glace et je me disais, mais c'est qui elle? Enfin, parce que je ne me reconnaissais pas. J'ai les cheveux courts, j'avais les cheveux tout courts, tout frisés, alors que avant, j'avais les cheveux raides. Puis il nous manque une partie de nous. On a un corps mutilé, plein de cicatrices. Et puis, je me dis, il n'y a personne pour me juger, quoi. Personne pour me regarder. Il n'y a que la nature avec moi, puis la nature que j'ai un sein, deux seins, pas de sein du tout, elle s'en fiche complètement. Que je sois une femme ou un homme, elle s'en fiche aussi. Quand elle nous claque des petits défis dans les dents, on est obligé de se débrouiller avec, et puis qu'on soit un homme ou une femme, ou qu'on ait un sein ou pas de sein, on est obligé de se débrouiller. Donc pour moi, c'était la liberté, j'étais bien, j'étais sereine, malgré tous les dangers qu'il y a quand même autour, hein. C'est le Groenland, c'est hostile, il y a des dangers, mais c'est des dangers que j'avais travaillé, donc pour moi, je m'y sentais bien.
Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être une femme et de voyager seule et de camper seule, du coup. C'est vrai que c'est malheureusement une question qu'on se pose quand on est une femme. Est-ce que toi, d'avoir vécu le pire, ça t'a enlevé cette appréhension?
Non, moi j'ai toujours aussi peur des êtres humains. Hein. Moi on peut me balancer en pleine nature dans une tempête, ça m'inquiètera moins que si vous me balancez au centre d'une ville ou au milieu de gens. J'ai très peur des êtres humains. D'ailleurs, quand je fais au Groenland, il n'y a personne, donc ça m'inquiète pas. Mais c'est vrai que dans d'autres aventures où je suis obligée de camper près de villages, de villes et tout ça, c'est le seul stress que j'ai. C'est qu'il y ait quelqu'un de malveillant. Voilà, les animaux, tout ça, c'est pas sournois, quoi. Ça attaque ou ça attaque pas, mais enfin, voilà, c'est pas pareil. Mais voilà, les êtres humains, j'ai toujours du mal.
Finalement, c'est l'envie de réaliser ton défi qui l'emporte sur la peur, de peu importe quelle peur, d'ailleurs.
J'ai pas entendu la fin de la phrase.
Je disais, finalement, c'est l'envie de réaliser le défi qui l'emporte sur quelconque peur.
Ouais, et puis en fait, tous les défis que je me lance, j'étudie tellement tous les dangers. Alors bien sûr, il y en a toujours d'autres qui peuvent arriver, mais je prépare tellement mes expéditions et mes aventures qu'en fait, je suis prête à plein de problèmes, plein de dangers différents. Et quand on s'y prépare, le jour où ça nous arrive, on sait qu'on a telle ou telle solution. Et on en choisit une. Alors des fois, c'est pas la bonne. On choisit après une deuxième solution et puis on finit par y arriver. Donc, effectivement, dans les défis et dans les aventures, il y a toujours des dangers, mais il faut s'y préparer, quoi.
Alors, du coup, j'avais envie de te demander, c'était quoi les principales difficultés? Parce que moi, j'ai ramé en paddle, j'ai fait des expéditions, mais je ne suis jamais allée au Groenland. C'était quoi les principales difficultés d'une telle expédition pour toi?
Pour le Groenland, déjà, tout ce qui est iceberg, c'est très dangereux, puisque ça se retourne, ça se casse, ça crée des vagues, ça fait des mini-tsunamis. Il y a de la glace aussi qui peut sortir très éloignée de cet iceberg et jaillir sous mon paddle, etc. Et puis, ou même m'envoyer des morceaux de glace sur le corps. Donc voilà, donc il y a déjà ce premier danger, c'était les icebergs. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis retrouvée dans un brouillard terrible où je ne voyais pas 10 mètres et j'étais au milieu des icebergs et je ne voyais plus rien. Et je me disais, si là, il y en a un qui se retourne et que je me le prends sur la tronche, là, ça craint. Voilà, donc j'ai eu cette frayeur à un moment. Et après, ce qui est météo, parce que forcément, la météo au Groenland, ça change en 10 minutes. Hein, en 10 minutes, il peut faire beau, puis d'un seul coup, il y a un vent katabatique qui arrive, un vent terrible. Et en paddle, c'est pas toujours simple avec le vent. Donc voilà, il faut toujours être prêt à toutes ces éventualités et pouvoir se sortir de tout ça. Donc les deux gros dangers, pour moi, c'était ça. Enfin, la météo, bien sûr, avec le vent et les icebergs.
Il y a Sylvie qui nous regarde sur Instagram qui te demande comment tu as géré pour la nourriture.
Ouais, alors.
Parce que tu avais tout sur ton paddle.
Ouais, j'ai tout sur mon paddle. J'avais plus de 50 kilos sur mon paddle, donc tout ça dans des sacs étanches. Donc mes repas, c'est très simple. Le soir, c'est une soupe déshydratée, c'est un lyophilisé et un carré de chocolat. Donc tout ça, je pars avec, je fais des courses où ça part dans mes bagages au départ. Et le midi, c'est pareil, c'est une boîte de sardines et un gâteau. Et bien souvent, le midi, soit je ramasse des moules ou je mange des oursins ou je pêche. Voilà. Au Groenland, la pêche, c'est très facile parce qu'il y a énormément de poissons. Donc, je pêchais tous les jours un cabillaud, donc une morue, morue cabillaud, c'est pareil, ou des petits poissons, puisqu'il y a beaucoup de migration de poissons. Et donc, j'arrivais à en attraper très facilement.
Et tu faisais ton petit feu pour le faire griller?
De toute façon, j'ai mon réchaud. Après, le feu, c'est un peu compliqué au Groenland parce qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'arbres. Donc, à part du bois flotté, c'est tout ce qu'on peut trouver pour faire du feu. Voilà. donc, du coup, j'ai toujours mon petit réchaud à essence. Pareil, je pars avec des litres d'essence sur mon paddle pour pouvoir tenir le temps de l'expédition. Tu
as aimé être en autosuffisance et revenir à ce réflexe de chasseur-cueilleur?
Ouais, c'était chouette parce qu'en plus, l'été au Groenland, il faut savoir aussi qu'il y a des myrtilles, il y a des champignons, il y a des cèpes. Donc voilà, il y a plein de choses en fait. Donc c'est chouette, ouais. Même le thé du matin, suffit de ramasser quelques plantes sur la toundra, quelques fleurs et tu te fais du thé. Donc c'est chouette, ouais. En fait, ouais, c'est ce que j'aime au Groenland parce que quand je pars comme ça là-bas, voilà, je pense qu'à avancer, manger et dormir. Donc voilà, ramasser des choses à manger et le soir, où est-ce que je vais planter ma tente? Et en fait, on oublie tout le superflu, tout ce qui peut nous stresser dans la vie de tous les jours. Voilà, on oublie tout, on pense juste à son expédition et ça, c'est génial.
C'est une vie qui est très proche de celle qu'on a vécue en voilier là, avec ma famille depuis 5 ans. C'est vrai qu'on est vraiment sur les besoins de base et c'est assez rassurant. Sylvie te demande encore, est-ce que tu as eu assez de soleil pour recharger les batteries de ton GPS par exemple?
Oui, je sais pas si oui, c'est oui comme parce ça que j'avais un petit panneau solaire. Et moi par contre, je n'ai pas de GPS, je suis à l'ancienne avec une carte. Mais sinon, toujours. Mais sinon, j'ai une balise Garmin, voilà, au cas où si j'ai un gros souci, j'appuie sur le gros bouton SOS et voilà quoi pour les secours. Mais sinon, j'avais un petit panneau solaire pour mon appareil photo, recharger les batteries de tout ce qui était. J'avais un drone, appareil photo, etc., etc. quoi. Mais il y a du soleil au Groenland l'été.
Bien. Du coup, cette expédition, tu l'as faite en quelle année?
J'ai pas entendu ça couper.
En quelle année tu as fait cette expédition?
Alors, cette expédition-là, c'était en 2018. Et bah, suite à ça, après, j'ai créé des séjours et j'ai emmené des groupes de personnes en kayak, cette fois-ci, parce que c'était plus accessible quand même à l'époque. Et depuis cet été, donc, j'amène des personnes également en stand-up paddle.
Et là, tu reviens tout juste d'une expédition, non, c'est ça ?
Ouais, bah, en fait, là, au mois de juillet, j'ai emmené 5 personnes avec moi en stand-up paddle, donc au même endroit. On n'a pas fait tout le parcours que j'avais fait seule, hein, forcément, mais on a fait une petite partie pendant 10 jours de bivouac et de découverte du milieu arctique.
Bon, y a plein de gens qui nous connaissent, qui te connaissent et qui te disent bravo. Hein. Je vois Elodie tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait, mais oui, on peut dire bravo à Ingrid, c'est clair. quelle est ta principale motivation à emmener des gens comme ça
Ben, j'ai envie de partager, tout simplement, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses seule. Je suis une personne qui est plutôt... Alors, je suis solitaire, mais pourtant, j'aime bien aussi avoir des moments avec d'autres personnes, quand même. Donc, voilà, c'est tellement beau, le Groenland, que j'ai envie de le partager avec d'autres personnes. Et c'est vrai que, bah, suite à la maladie, par exemple, il faut savoir qu'un cancer, tout le monde se dit, bon, bah, en France, on est super bien couvert, il y a la sécurité sociale, etc. Bon, moi, j'ai perdu mes deux nichons, mais j'ai perdu aussi mes deux bras, financièrement, parce qu'il y a énormément de produits qui ne sont pas remboursés. Quand on est un peu sur la ficelle, on se dit bon ben là je vais claquer, donc on essaye tout ce qui existe, médecine douce, médecine parallèle, enfin on fait la totale, donc tout ça ben ça coûte cher. Voilà, donc c'est vrai que j'avais préparé cette expédition en 2017. Pour finir, je l'ai annulée. J'ai dépensé tout mon argent, toutes mes économies, ben, dans la maladie. Et quand j'ai voulu relancer le séjour, ben, je me suis rendu compte que financièrement je tenais plus la route. Et j'ai une amie qui a lancé un crowdfunding. Et c'est grâce à tous mes amis, donc ceux qui me suivaient sur les réseaux et puis des amis proches, voilà, que j'ai pu partir. Et donc voilà, aussi par rapport à ça, bah, du coup, c'est aussi, je leur dois tellement. Et voilà, donc j'ai envie de partager aussi ces séjours au Groenland avec eux et puis de leur faire découvrir, quoi.
C'est top. Bah écoute, on pourrait rester encore à discuter de nombreuses heures sur tous ces sujets qui sont vraiment passionnants parce que ben voilà, la maladie, c'est aussi quelque chose qui nous révèle. Mais c'est la fin de notre épisode ensemble avec Oleti. Donc Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie. Et j'aime bien finir mon épisode en demandant à mon invité pour qui ou pourquoi éprouves-tu le plus de gratitude aujourd'hui ?
Oula, pour qui et puis pourquoi ?
Ou pourquoi ?
Non, bah, la gratitude, tout simplement, bah, on la vit, parce qu'il faut croire en la vie, quoi, même quand on est dans des situations difficiles. Voilà, il faut croire en la vie et croire en soi.
Merci beaucoup, Ingrid. Merci à tous ceux qui étaient là. Sylvie qui te dit « Sacré nana, bravo Ingrid et bonne continuation ».
Merci.
Et ben, n'hésitez pas à retrouver notre échange sur mon podcast Oleti. Je te souhaite une belle continuation, Ingrid.
Merci à toi aussi, Sarah. À bientôt.
Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est certainement parce que tu l'as bien aimé. Si tu veux soutenir Oleti, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou la plateforme de ton choix. C'est super simple, va sur l'application Apple Podcasts ou Google Podcasts, cherche Oleti. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur s'abonner, puis glisse tout en bas jusqu'à la rubrique évaluation et avis. Tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner tes étoiles, 5 de préférence parce que bon, bah, mon travail le mérite bien, non ? Dis-moi aussi pourquoi t'écoutes Oleti, quel impact a ce podcast sur ta vie. Merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace, c'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Bisous, à la semaine prochaine !